Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Joseph, le 18 mars 1987.
Doit compter sur les limitations que lui lui impose le corps. Par son esprit même, elle dépend d'objets et de mesures autres qu'elle-même. Enfin, plus profondément, sa nature est déterminée à un autre effet. Donc il est obligé de parler de la nature de la personne. Le mot nature est là employé dans deux significations différentes. Enfin, plus profondément, sa nature est déterminée à un autre effet qu'elle-même. Même lorsqu'il s'agit de cette surexistence illimitée, de la connaissance et de l'amour. Alors, est-ce qu'on peut dire ça? Retenez la phrase. Parce que c'est quand même dit dans un langage moderne et compréhensible d'aujourd'hui. Et vous voyez tout de suite la confusion entre l'aspect ontologique de l'exister, de l'être, et l'aspect intentionnel de la connaissance. Alors on passe de l'un à l'autre. Enfin, on est devant, je crois, le problème qui était déjà posé par Descartes. Substance pensante. Et la substance pensante fait que, de fait, la subjectivité transcendantale doit être première. Et donc, poussée à l'extrême, la personne ne peut pas être créée. Donc, la personne est divine. Elle subsiste en elle-même. Qu'il y ait quelque chose de juste. C'est vrai. Autrement dit, il y a quelque chose de divin dans l'esprit. Ce que Plotin disait. Il y a quelque chose de divin dans l'esprit. Et ce quelque chose de divin dans l'esprit réclame dans le langage de Descartes et causa sui. Et c'est la nostalgie du causa sui, quoi, qui demeure depuis Descartes, sans voir que c'est une contradiction interministe. C'est très très curieux, c'est intéressant, parce que Geoffrey n'est pas du tout cartésien. Mais ça renaît. C'est pour ça que ce passage est intéressant, parce qu'il est très significatif de la position de quelqu'un thomiste, de formation thomiste, devant le problème actuel de la personne. Comment y sentir? Comment, face à Maritain, individu, personne, il traduit nature, personne, le conflit entre les deux, limite, transcendance. La personne s'est limitée, c'est l'en-soi de Sartre, le manche à balai, quoi, vous savez bien ce que dit Sartre. L'être en soi, c'est le manche à balai, parce que c'est la déterminée, c'est la chose, c'est le mur devant lequel je me trouve. Et toujours cette vieille idée, le nous mène quelque chose que je ne connais pas, donc c'est le mur devant lequel je me casse la tête, je tape le front là-dessus, le mur, c'est l'objet, enfin, en définitive. Tandis qu'au contraire, la personne demande d'être autolucide. Donc, elle est pour soi. C'est l'être pour soi. Et tout doit être pris dans la conscience et dans la limpidité de soi. Et donc, tout doit être dans sa propre transcendance, causa sui. Une fois qu'on a compris le petit jeu, ça va très bien. On le dit avec des modes différents. On le chante différemment. Avec des expressions différentes. Mais c'est toujours la même chose. Et c'est ça qui est intéressant, parce que là, on touche, je crois, l'os de toute la philosophie contemporaine, qui se traduit de diverses manières, mais c'est toujours la même idée. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir exprimer différemment pour qu'on s'approche du problème. Alors, je reprends. Or, en fait, la personne doit compter sur les limitations que lui impose le corps. Nous dirions, elle doit compter sur le conditionnement dans lequel elle se trouve. La personne, elle se trouve réalisée dans une nature. J'en peux rien, mais c'est comme ça. Si je pouvais être une personne purement spirituelle, sans cette pauvre nature, sans ce pauvre corps, voyez, vieux platonisme, me libérer de cette pierre tombale qui est mon corps, me libérer de tout ce psychisme qui est là et qui est tout le temps là, assommant et qui me limite. Je commence à reconnaître la chanson. Me libérer tout ça parce que j'ai une aspiration vers du transcendantal. J'ai une aspiration vers une liberté absolue. Et c'est vrai, psychologiquement, je porte ce conflit en moi. C'est évident, je le porte. Et je me heurte tout le temps. Et la nature, c'est la limite, c'est le mur. Alors, on voit très bien. Or, en fait, la personne doit compter sur les limitations que lui impose le corps. Et si le corps, c'est la nature, hein. Donc on ramène la nature au corps, ce qui n'est pas juste. C'est la nature, c'est autre chose. La nature, c'est un principe, c'est pas une limite. Vous voyez, confusion. Dans le domaine matériel, toute détermination implique une limite. Mais la limite est du côté de la cause matérielle. Et la nature est du côté de la cause formelle. Depuis Leibniz, on a confondu détermination et limite. Et ça, c'est une confusion de tous les modernes. Ce qui fait qu'ils ont horreur de toutes les déterminations de l'Église. Quand l'Église détermine quelque chose, ah, une fois de plus, on nous met en prison. C'est ce qui se passe maintenant. Les savants devraient dire, mais si l'Église dit ça, il y a peut-être un problème de vérité. Ah non, ça se pose absolument pas. Toute détermination est posée pour une limite. Le dogmatisme, c'est une limite. Alors que la détermination est une libération. Parce qu'il y a une confusion fondamentale entre détermination et limite. Et ça, c'est l'idéalisme de Leibniz. On confond limite et détermination. Que de fait, dans le monde physique, détermination implique une limite. Qu'est-ce que c'est qu'une clôture? Hein? Réfléchissez là-dessus. Qu'est-ce que c'est qu'une clôture? Pour les uns, c'est une limite. Pour les autres, c'est une détermination. Et dans les querelles internes de la communauté et de la vie commune, les uns sont pour la limite, les autres pour la détermination. Les deux pôles tout à fait différents. Tout acte d'obéissance, ah, c'est une limite, une fois de plus. Mais non, c'est peut-être une libération. Mais ça va très loin. Ce blocage, on est post-leibnizien. Et Leibniz a été considéré comme le dernier grand scolastique. Ça va très loin, ça. Et alors, on retrouve ça ici, c'est ça qui est très curieux. Parce que Geoffrey devrait quand même être un tout petit peu formé par saint Thomas et comprendre que la causalité matérielle et la causalité formelle, c'est pas tout à fait la même chose. C'est très élémentaire, hein, la distinction nature-forme et nature-matière. C'est la distinction la plus élémentaire. Dans toute œuvre d'art, vous distinguez matière et forme. Très élémentaire, bien on transpose cette distinction au niveau de Dieu dire dans l'ordre de l'être. Même Gilson fait cette confusion. Et comme Gilson est le père du thomisme, tous les thomistes font la distinction. J'ai déjà dit, la distinction nature, nature-forme, nature-matière, c'est une distinction au niveau du devenir. Dès que je suis dans l'ordre de l'être, ce n'est plus cette distinction qui est la première. C'est substance et accident. Puisque la matière ne structure pas. personne doit compter sur les limitations que lui impose le corps. Par son esprit même, elle dépend d'objets. Qu'est-ce que ça veut dire dépendre d'objets? Est-ce qu'on est déterminé par les objets? L'intelligence, quand elle n'a pas d'objet, qu'est-ce qu'elle fait? Cogito. Et cogito quoi? Cogito. En réalité, c'est cogita, cogito sui. Je pense à moi. Et ma prison, c'est moi. Et je n'arrive pas à dépasser cette prison. Pourquoi? Cogito. Je cogite toute la journée. Si vous cogitez sans objet, et je vous ai déjà dit, c'est le moulin à café. On tourne, il n'y a plus de café. Il n'y a plus de grain de café. Vous voyez, on continue de tourner. C'est extraordinaire, ça. Dès que vous considérez que l'objet devient une limite. Alors, quand on dit dépend, c'est pas dépendre. L'intelligence, l'esprit, est déterminé par l'objet. Il est spécifié par l'objet. Pourquoi? Parce que de fait, c'est un esprit qui n'est pas Dieu. Aristote avait dit ça. Il n'y a que pour Dieu où l'esprit n'a pas d'objet autre que lui, en dehors de lui. Toute autre intelligence, toute autre volonté dépend d'un objet. Vous voyez, ces petites phrases qui n'ont l'air de rien, qui montrent immédiatement qu'on confond objet. C'est très important parce qu'on est en plein dans ce champ de bataille. Alors il faut quand même le comprendre, ce champ de bataille. On est en plein dedans, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès que Rome détermine quelque chose, on le prend comme Rome qui met des verrous. Et on reste avec le vieux schème, l'histoire Galilée. Mais c'est pas très intelligent de la part de l'humanité, hein, et de la part de grands savants. Ça prouve qu'ils réfléchissent pas. Qui sont des a priori qui tombent dedans. Alors, il faut réfléchir là-dessus, il faut comprendre pourquoi on est dans cette philosophie où la détermination et la limite ne font qu'un. Alors, tout se ramène à la limite. Par son esprit même, elle dépend d'objets et de mesures autres qu'elle-même. Enfin, plus profondément. Alors ça, c'est l'aspect métaphysique. Et c'est le comble. Enfin, plus profondément, sa nature. Donc, nature ici, ça veut dire son essence, ce qu'elle est. Il aurait mieux fait de mettre ça, ce qui est équivoque sur la nature. Enfin, plus profondément, ce qu'elle est déterminée à un autre effet qu'elle-même. Donc, elle est déterminée à un autre effet qu'elle-même. Même lorsqu'il s'agit de cette surexistence illimitée. De la connaissance et de l'amour. Vous voyez, cette surexistence illimitée. Est-ce que c'est une surexistence? C'est le surêtre, hein, qui consiste à dire que la connaissance est du surêtre. Est-ce que la connaissance est du surêtre? Il s'agit de cette surexistence illimitée de la connaissance et de l'amour. L'intelligence et l'amour sont ouverts vers quelque chose d'infini, mais dans l'ordre de la connaissance. Si vous confondez connaissance et existence, ben, vous êtes Dieu. C'est la confusion que Descartes avait. Alors, c'est curieux qu'on retrouve exactement la confusion de Descartes. C'est pour ça que c'est très intéressant, parce que pas bête, Père-Geoffrey, il est même très intelligent. Et il a connu ça, il a fait ses études profondes de Saint-Thomas. Et alors, on arrive à des positions comme celle-là. Ainsi, quand nous disons avec M. Maritain que la personne demande à se déterminer elle-même dans son être même, voyez, cosa sui. Quand la personne demande de se déterminer elle-même dans son être même, et par là cherche en quelque sorte à dépasser. dépasser sa condition de créature. C'est dit explicitement. Qu'est-ce que c'est que dépasser sa condition de créature, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le refus de Dieu. Donc, est inscrit dans la personne le refus de Dieu. La personne est donc athée. Il fait jusqu'au bout, c'est ça que ça veut dire. Autrement, ça n'a pas de signification. Et voyez ce qui est terrible, parce que c'est la confusion de Feuerbach. Feuerbach fait la confusion entre l'aspect ontologique et l'aspect de l'intentionnalité. Il dit que l'intelligence et la volonté ont quelque chose d'infini. Donc, on est Dieu. C'est exactement ça. Donner la main à Feuerbach, c'est ennuyeux. Mais c'est parce que ça, je veux vous montrer le problème, il est là, inscrit. Ainsi, quand nous disons que Monsieur Maritain, quand nous disons avec Monsieur Maritain que la personne demande à se déterminer elle-même, la personne se détermine elle-même, saint Thomas l'avait dit. Mais pas au niveau de l'être, au niveau de la volonté, c'est pas la même chose. Et même pas au niveau de l'intelligence, au niveau de la volonté. Domina sui. La volonté domina sui. Et pas causa sui. La confusion de domina sui et causa sui. Elle se domine. Elle est capable de se déterminer. C'est vrai. L'être pour soi. On se détermine soi-même. Donc, et que la personne demande à se déterminer elle-même dans son être même. Et par là, cherche en quelque sorte à dépasser sa condition de créature. Nous ne considérons plus la personne comme une nature enfermée dans un genre et une espèce. Et la nature n'est même pas enfermée dans un genre et une espèce. Confusion entre le domaine de la du principe et de la connaissance par genre et différence spécifique. Ce que toute la scolastique a fait. Alors là, elle tombe dans la scolastique. C'est la critique. Et ça, c'est la nature ne se définit pas par genre et différence spécifique. Ça, c'est de la logique. La nature est un principe. Et le principe, comme principe, est au-delà du genre. Vous ne pouvez pas mettre le principe dans un genre. Ce qui serait plus principe. Le principe, c'est quelque chose de premier. Or, le genre est premier. Ex parte materiae. Et donc, il est premier relatif à autre chose. C'est un tout potentiel relatif à la différence spécifique qui vient déterminer. Nous ne considérons plus la personne. Oui. Nous ne considérons plus la personne comme une nature enfermée dans un genre et dans une espèce, mais comme une perfection transcendantale. Dans sa nature métaphysique. Donc c'est un texte extrêmement intéressant. N'y a-t-il pas dans la position du berger vrai un certain souci d'unir la métaphysique de saint Thomas et le personnalisme moderne, et même d'assumer la conception kantienne de la personne? Pouvons-nous affirmer que la personne demande à se déterminer elle-même dans son être même, et par là, cherche en quelque sorte à dépasser sa condition de créature. Ça, c'est à réfléchir là-dessus. Une excellente méditation philosophique sur la personne. Ça dit merveilleusement bien que vous ayez des nostalgies d'infini et de ne dépendre de personne. Que vous ayez cette nostalgie en vous et que toute obéissance apparaît comme une prison. C'est normal parce que vous êtes post-Leibniz, post-Descartes. Vous êtes petit-fils de Descartes. Alors comment en sortir? Par la finalité. Si vous m'aimez, vous vous observez mes commandements, si vous m'aimez, c'est l'amour qui me permet de comprendre que l'obéissance, ce n'est pas une limitation, c'est coopérer.
Tartare pour que le bifteck disparaisse. On voit très bien l'histoire.
ce mot-là, vous comprenez très bien. Vous dites perfection transcendantale, voilà la sauce kantienne. Ça ne voit le beefsteak. Que devient la substance? Plus rien du tout. Elle est réduite à la nature. Et la nature, à la limite. Et la nature, au corps. Voilà. Alors, il n'y a qu'une seule chose intéressante de la perfection transcendantale. Et c'est très curieux, ça. Et c'est très intéressant de voir ces choses-là. Parce que ça fait comprendre comment on a une peine énorme à comprendre ce que dit saint Thomas. Autrement dit, on a une peine énorme à penser philosophiquement, c'est-à-dire à saisir des principes. Et le vieux Ramirez, hein, qui disait « J'ai lu toute la philosophie contemporaine, je n'ai pas trouvé un seul principe. » C'est vrai. Alors, ce qui est intéressant, c'est de saisir des principes. Autrement, si je ne saisis pas des principes, qu'est-ce que je fais? Je retombe dans la connaissance genre et différence spécifique. Et je retombe dans une philosophie uniquement descriptive. Et je crois que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le père Geffray, cherchant à préciser sa pensée, souligne que si le degré d'une nature inférieure ne désire pas le degré propre d'une nature supérieure. Cependant, lorsqu'il s'agit des perfections transcendantales, il en va autrement, car des perfections transcendantales, comme l'intelligence, l'amour, la personnalité, ne s'anéantissent pas en passant à un degré supérieur. Au contraire, plus on monte dans les degrés des êtres, plus ces perfections sont conformes à leur ratio. Mais le vieux reste mixte. Là, on retrouve le beefsteak. Plus ces perfections sont conformes à leur ratio, la personne est une perfection transcendantale dont le premier analogué se retrouve en Dieu. Personne est une perfection transcendantale dont le premier analogué se retrouve en Dieu. Mais quand vous ne connaissez pas ce premier analogué, vous ne connaissez pas. Vous comprenez, c'est très bien. C'est l'ontologisme par rapport à la personne. Vous ne connaissez la personne que si vous connaissez Dieu. Or Dieu, vous ne le connaissez pas, donc vous ne connaissez pas la personne. C'est très juste de dire que le premier analogué de la personne, c'est Dieu. On est tous d'accord. Comment avez-vous affirmé? Comment pouvez-vous dire ça? Et vous pouvez dire ça, c'est parce que vous avez essayé de connaître ce que c'était que la personne. Puisque vous ne connaissez pas ce qu'est Dieu. Si vous ne connaissez pas ce qu'est Dieu, vous ne pouvez pas dire que vous définissez la personne en fonction de Dieu. C'est dire que vous ne connaissez rien. Et c'est l'ontologisme qui revient. Qui revient à travers les perfections transcendantales. Et le père Geffray n'hésite pas à affirmer, il y a en moi un désir naturel de la personne à atteindre la plénitude de sa perfection, à savoir la parfaite indépendance. Voilà, le révolutionnaire est né. La personne n'existe que si elle est révolutionnaire. Donc, elle n'existe pas comme personne. Prenez ces termes-là, il y a en moi un désir naturel de la personne à atteindre la plénitude de sa perfection. Atteindre la plénitude de sa perfection, c'est le désir naturel de Dieu. Mais le désir naturel de Dieu, je sais que ce désir naturel de Dieu, il est entièrement dépendant du bon plaisir de Dieu. Et il n'y a pas la parfaite indépendance. De même, en tout être créé, il y a un ordre à laisser. Pardon. De même, en tout être créé, il y a un ordre de laisser, à rejoindre l'essai divin. Ce désir est vraiment une tendance ontologique. Cette tendance ontologique, c'est l'ontologisme. Voilà ce qu'il dit, vous voyez. mais c'est divin. Bon, alors, vous voyez la confusion. Quand j'ai dit ceci, c'est la première chose que vous connaissez. Ici, c'était C. Il faudrait mettre SC participé. En tout SC participé, il y a un ordre à l'SC divin. Ah, on est tous d'accord. Est-ce que vous connaissez l'SC participé? Moi, je ne connais pas. L'SC participé, c'est un jugement de sagesse. En toute créature, il y a un SC participé distinct de ce qu'il est. Mais laisser participer n'est pas connu immédiatement. Je n'ai pas l'expérience de laisser participer. C'est le théologien qui, dans sa foi, peut dire tout de suite « Je suis une créature ». Mais vous n'avez pas l'expérience de la créature. Vous affirmez « Je suis une créature » après avoir affirmé que tu existes. Oui, c'est au cœur de tout l'ontologie. Or, l'ontologie, je vous l'ai dit, c'est le lit de l'athéisme. En allant jusqu'au bout de l'ontologie, vous ne sortez pas, et vous ne pouvez pas sortir de la réaction brutale de l'athéisme. Donc, confusion, vous voyez, ça c'est très net. Confusion entre, disons tout simplement, l'expérience, jugement, existence. Je peux dire ceci est, je suis, ça je peux le dire. Mais quand je dis je suis, je ne dis pas je suis un être participé. Pour pouvoir dire je suis un être participé, il faut découvrir l'être premier. C'est par l'être premier divin que je dis laisser participer. Je ne peux pas le dire avant. Ici, jugement de sagesse. Et le jugement de sagesse se fait à partir de l'être divin. Donc, confusion entre les deux. Entre le jugement d'existence et le jugement de sagesse. Et ça, c'est au cœur de l'ontologisme. Je vous ai déjà dit, il faut de temps en temps revenir à Malebranche.
Ça crée une tendance fondamentale.
trois grandes propriétés de la personne. Ça, c'est intéressant à noter. Pour le père Jeffrey, les trois grandes propriétés de la personne, ou ses conditions sine qua non, sont la conscience, l'infinitude et la liberté. Ça, c'est la république de la personne. C'est la conscience, l'infinitude et la liberté. Il dit ça toujours dans le même endroit que je vous ai dit. De toute façon, ça vaut la peine de le lire avec intérêt, parce que c'est quand même quelque chose. Et il dit les conditions sine qua non de la personne, les propriétés ou conditions sine qua non. C'est intéressant aussi, parce que c'est le langage conscient. La conscience dérive de la nature intellectuelle de la personne. C'est le nous qui est conscient. Cette conscience de soi témoigne de l'identité au-delà de la variété des opérations. C'est ce que saint Augustin avait si bien senti lorsqu'il parlait de la mémoire de soi. On ne peut pas dire, bien que certains l'aient cru, que la conscience constitue la personne, car elle présuppose le suppôt métaphysique qui seul constitue la personne comme personne. Voilà. Le reste métaphysique.
Ces qualités se prend de la nature rationnelle de l'homme. On ne peut